patrimoine et spiritualité. Patrimoine et spiritualité, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Bonjour Chantal.
Bonjour Armand.
Alors on poursuit aujourd'hui encore la lecture de ce conte d'Émile Colline par Gilles Lade aux éditions Tertium.
Très bien, aux éditions Tertium.
Tertium.
Alors
voilà.
Précipitez-vous parce qu'il n'y aura pas suffisamment de volume pour tous.
Très bien, message reçu.
Alors je vais vous lire aujourd'hui le conte intitulé par Gilles Alexis aux mille collines. Alors nous repartons sur le Causse, n'est-ce pas ?
Allons-y.
L'été s'annonçait aux confins de la Broyne, que nous avons déjà parcouru dans d'autres récits de Gilles.
Exact.
Donc de la Broyne, en plein cœur du Causse de Gramat. Alexis, la main sur le licol de son âne, rentrait chez lui à Cagnac. Voilà déjà 10 ans qu'il était colporteur et sillonnait dans tous les sens le Haut-Quercy, ce pays qu'il connaissait et aimait un peu plus chaque jour. Son frère aîné avait hérité de la ferme familiale. Lui, cadet, devait choisir un métier, et c'est tout naturellement qu'il avait adopté le destin de colporteur. Beaucoup circulaient en cette fin du XIXe siècle, où les chemins blancs crissaient sous les roues des charrettes et des chariots. Il connaissait l'utilité de sa profession, estimée et reconnue, car les colporteurs palliaient les difficultés de déplacement et livraient dans les écarts et les hameaux bien des objets nécessaires à la vie matérielle et spirituelle, des ustensiles de cuisine à la mercerie et du nécessaire d'écriture aux missels. Mais d'autres objets permettaient l'accès à la beauté, à l'évasion, comme les lithographies, les chansons, la littérature de colportage. À la différence de ceux qui traversaient les provinces sur de très grandes distances, Alexis avait une maison à Cagnac, ainsi qu'une grange qui lui servait d'entrepôt. À certaines périodes, il laissait son âne au village chez son frère et endossait une hotte pour livrer les objets les plus légers, comme les mouchoirs, la mercerie, les dentelles, les cartes postales. Alexis allait passer quelques jours à réorganiser son chargement avec méthode et soin en fonction des clients qu'il envisageait de visiter. Il lui arrivait d'étaler sa marchandise dans le jardin qui jouxtait sa grange. Comme il habitait à peu près au centre du Lot, il se préparait pour une dizaine d'étapes, après quoi il reviendrait garnir sa carriole. La première raison pour laquelle il avait choisi ce métier était assurément son goût des grands espaces. Il l'avait bien des fois remarqué. Les causses du Quercy sont une succession de vallons et de collines, de combes et de pêches, des sommets. La combe est peut-être l'élément du paysage le plus attachant. C'est un sillon ouvert dans le relief calcaire, souvent à partir de rivières. Ses formes en creux sont désertées par l'eau qui court bien au-dessous dans des galeries de roches ou se perd dans les profondeurs. La plus longue de ces combes est sans doute celle de la Dame, qui débute au pied de la Bastille de Murat et se déploie jusqu'à la Dordogne. Demain ou après-demain, Alexis partirait pour Soulomès et la Bastille de Murat. Il aurait dans les parages de Pêche-Cendrier une première rencontre avec les lointains. Après avoir quitté le vallon de Cagnac, après avoir vu s'éloigner l'église dont la crypte abrite les reliques de Saint-Namphèse, dont nous avons parlé aussi, après avoir longé des moulins à vent, il verrait s'élargir à l'est la Broyne densément boisée. Il ferait sien, déjà, cet élan des collines qui multiplie les lignes d'horizon. comment compter les collines ? Il avait essayé, mais fallait-il retenir chaque fois 2 ou 4 versants ? Et de tous les côtés, le relief renouvelait sans fin ses profils. La Broyne apparaissait comme un massif. Plusieurs collines convergeaient vers un dôme un peu plus haut que les autres, peut-être le sommet des Cosses du Quercy. À la Bastille de Murat, Alexis retrouvait ses clients, dont beaucoup étaient d'anciennes connaissances. Il s'arrêtait un moment, détachait son âne, qui se précipitait sur le premier arpent de gazon, accueillait des épouses soucieuses de compléter une gamme de casseroles ou de se munir de quelques boutons. Il apprenait des nouvelles, comme mariage, naissance, décès, événements divers, incendies. Il s'étonnait de l'absence d'un tel devenu soldat ou parti se fondre dans la grande main-d'œuvre parisienne. Si le jour était encore bien clair, il repartait. Sinon, il cherchait à se loger dans quelque écurie. Il avait ses itinéraires vers le nord, le long de la grande route de Paris en direction de Peyrac. Il pouvait passer au pied du château de Vaillac, artistiquement placé sur une terrasse ensoleillée par les Ricard de Gourdon. De loin, il s'enthousiasmait de sa puissance ramassée, de ses tours écrêtées et peut-être plus encore de ses vastes écuries dont il imaginait l'impressionnante pénombre. Il traversait l'eau mince du Séou, remontait la pente puis découvrait le château de la Poujade, ancien manoir à 2 tours, parfaitement défini sur le bleu des lointains. Par-dessus le château surgissait la ligne d'horizon où se fondaient les collines élevées vers Peyrebrune ou la Bourriane, adoucies vers Rocamadour et la Dordogne. Des combes y prolongeaient leurs dédales. Alexis avait rendez-vous avec ces profondeurs solitaires et farouches. L'âne montrait moins d'entrain en découvrant ces combes sans verdure. Or, tout au bout d'un plateau, au bord d'un chemin ensoleillé, habitait la vieille Ambroisine. Avenante et gaie, elle se présentait sur le seuil à chaque bruit de pas ou de calèche. Souvent, elle connaissait le passant. Sinon, elle engageait la conversation. Rien ne laissait imaginer sa réelle pauvreté. Sa coiffure, son tablier, ses chaussures s'harmonisaient dans la simplicité. Une compagnie bien tonique lui venait de ses quelques poules, lapins et chèvres, mais c'est son sourire et sa voix cristalline qui valaient pleinement accueil. Ambroisine croisait la route d'Alexis 1 ou 2 fois dans l'année. Il lui vendait de petits livres bleus qui la faisaient rêver. Il lui distribuait aussi des almanachs, des crayons, des nécessaires de couture. Il devinait sa volonté de rester digne dans la solitude. Ses traits lumineux démentaient son âge. Elle marquait beaucoup d'intérêt pour tout ce qui se passait dans le pays. À son invitation, Alexis entrait, acceptait un peu d'apéritif car elle voulait fêter cet événement. Ils se communiquaient de menus faits sur les uns et sur les autres, se livraient à des confidences sur leurs familles proches ou éloignées, évoquaient des personnes connues d'eux seuls. Alexis se sentit pris d'une affection particulière pour Ambroisine. Un sentiment presque filial l'animait. Un jour, il lui offrit un tablier qu'il trouvait particulièrement saillant. Il trouva des mots qui, ménageaient sa dignité, lui fit comprendre qu'il voulait la savoir plus heureuse encore. Elle accepta ce cadeau avec une lueur merveilleuse dans les yeux. Quand il partit, « À bientôt, Ambroisine !» Il savait que leurs pensées se croiseraient par-dessus le Causse. Lorsqu'il quittait cette demeure, il mettait du temps à secouer toute sa tristesse. dans l'aride descente vers la combe de la Dame, le petit village d'Ozac rassemblait ses maisons de caractère dans l'écart d'un étroit vallon. Le haut clocher-mur prenait pleinement le soleil des après-midi d'hiver. Alexis faisait souvent un décor par les hameaux de Grolles basses et de Grolles hautes, où deux sveltes croix de pierre traversent les siècles de leurs signes épurés. Sur celle de Grolles basses, on voit la colombe du Saint-Esprit descendre sur le Christ. À chaque sommet de colline, Alexis redécouvrait la totalité de l'horizon, à peine jalonné de quelques fermes. Puis, sur un dôme dénudé apparaissait le village de Reillaguet. Le bourg, avec ses maisons également réparties autour de l'église, offrait une belle et dense harmonie sur fond de solitude. Alexis prenait alors vers l'est la direction de Calais et de Rocamadour. Il descendait graduellement vers Louis et longeait les longs ravins où le soleil de l'été déchaînait de lancinantes cigales. Il découvrait alors les arches du pont de pierre enjambant la rivière. Le nom de Louis évoquait plutôt un ruisseau. Or, c'était bien une rivière ici, à quelques kilomètres de la Dordogne qui se révélait au regard. L'Olympide y dévoilait le fond en aval et en amont, sauf dans d'opaques caves bleues. Presque toujours, il découvrait un brochet ondulant imperceptiblement contre les algues. Il n'oubliait pas que, non loin de là, une petite grotte ouverte dans la rive laissait parfois entendre des bruits sourds attribués à l'esprit diabolique du drac. Personne insaisissable et redoutée. Il passait, outre son inquiétude pour rendre visite au meunier de Cougnaguet, qui s'enchantait du cliquetis de son moulin. Malgré la loutre bien présente, des truites indomptables éclaboussaient la vasque de la retenue. Après avoir donné l'accolade au meunier, Alexis lui présentait sa marchandise. Il parvenait presque toujours à lui vendre quelque objet. « Ça me portera bonheur, » disait le meunier avec une réelle conviction. Les deux hommes partageaient leur repas. Ils se sentaient un peu frères de condition et de destinée, marginaux à leur manière. Le premier planté comme un chêne dans son site de roches et d'eau, près des oiseaux, des animaux furtifs, et le second découvrant jour à jour de nouveaux aspects de son pays, par tous les chemins et aussi par tous les temps. C'est avec un frémissement bien particulier qu'il montait la côte aride et dénudée de Rocamadour. Il était sûr que cette émotion était partagée par son âne. Alexis guettait le clocheton du château. Il le longerait pour aller jusqu'à l'hospitalet. La foule grossissait. Toutes sortes de calèches étaient garées près des restaurants et des hôtels. Alexis choisissait un emplacement en vue dans un espace dégagé. Il voyait bientôt affluer des clientes pressées d'acquérir des objets qu'il était le seul à proposer. Beaucoup d'enfants aussi s'attardaient autour de l'âne, qui faisait preuve d'une évidente patience. Le colporteur répondait de bonne grâce à des pèlerins venus de loin et qui posaient des questions sur la contrée. À d'autres, dont la physionomie lui était familière, il signalait ses nouveautés. De temps en temps, un prêtre s'arrêtait pour acheter un article ou bien encore engager la conversation avec, parfois, un souci pastoral. L'un d'eux qu'il connaissait lui dit « Tu ne descends pas à la chapelle ?» Il se rappela que sa mère lui avait dit « Si tu passes par Rocamadour, va prier pour nous. Elle prie aussi pour toi. » Vers 5 ou 6 heures du soir, il confia son âne à l'aubergiste et descendit vers le sanctuaire en passant par le chemin de croix. Il prit le temps de lire les légendes des stations, fut impressionné par certaines scènes et parvint à la chapelle de la Vierge Noire. L'affluence était considérable. De nombreux cierges brûlaient, dégageant un prenant arôme spirituel. Alexis ne s'était jamais senti investi d'une telle mission. À vrai dire, même s'il avait suivi tout son catéchisme et s'il avait prié avec le prêtre et ses camarades, il s'était quelque peu éloigné de ce temps-là. Sa mère pieuse formulait spontanément des réflexions devant des images ou des statues de saints. Elle disait « La Sainte Vierge, c'est notre mère du ciel ». Et là, Alexis, un peu gauche, devant la statue éclairée, hésitait. Mais le mot de mère lui donna confiance. Il vit la sienne en train de prier. Les deux images se mêlèrent et il présenta à Notre-Dame tout un ensemble de souhaits personnels et familiaux. Puis il fit brûler un cierge. Il remonta avec allégresse sur le plateau, dans le soir encore éclairé. Son âne l'accueillit de loin, de façon particulièrement sonore. Il le fit boire et il arpenta le village, comme pour expérimenter un peu de vraie liberté. Il avisa bientôt un ami et l'invita à l'auberge. Il était envahi d'une belle confiance qu'il fit partager à son hôte. Le lendemain, comme prévu, il prit la direction de Saint-Céré et aborda le causse de Carennac. Il connaissait peu d'endroits plus arides et plus lumineux. De rares chênes et genévriers s'effaçaient devant l'immensité des pentes rêches. Il parvint à Miers, où un attroupement s'était formé autour d'une équipe de scieurs en long, qui seuls, à l'époque, pouvaient débiter des planches à partir de grosses billes de bois. Il s'installa à une certaine distance, attendant les clients et gardant un œil sur les artisans au travail. Les troncs équarris étaient fixés sur de hauts tréteaux qui permettaient d'utiliser une scie fixée au centre d'un large cadre, ce cadre étant actionné de haut en bas par deux hommes, l'un au sol, l'autre en équilibre sur le tronc. Le plus admirable était la précision de la coupe, matérialisée par un trait sur le bois et obtenue autant par l'efficience du dispositif que par la coordination, le coup d'œil et l'endurance physique des deux hommes. À cette époque, le Quercy était un vaste chantier, puisque le milieu du XIXe siècle, l'on construisit en pierre de nombreuses maisons et granges. Dans bien des hameaux, plusieurs bâtisses montées en même temps, poutres et planches, étaient réclamées en grand nombre. Alexis se sentait partie prenante de ce grand effort qui voyait s'épanouir l'art de bâtir, alliant solidité et élégance. Les sieurs de Long venaient souvent d'Auvergne. Ils y repartaient au début de l'été, forts d'un certain prestige et de l'admiration des jeunes gens et aussi des moins jeunes. Demain, Alexis repartirait vers le nord-est, hasardant un œil inquiet dans les profondeurs du gouffre de Padirac que l'on explorait assidûment. Le plateau vallonné se prolongeait longtemps. Aux crêtes arides du Causse grand succédaient plusieurs dômes entourant la reculée d'Autoire et les falaises des Césarines jusqu'aux abords de Saint-Céré. Au-delà, vers l'est, le Ségala opposait ses masses sombres et boisées dont le Pendy était le premier bastion. Lorsqu'il cheminait au milieu du Causse de Carennac, Alexis en était comme prisonnier, mais il éprouvait en même temps une grande liberté de passer d'une pente à l'autre, tout en voyant se modifier l'horizon proche et lointain.
Merci beaucoup Chantal. Ce que je vous propose, puisque malheureusement le temps qui nous est compté est imparti, eh bien, c'est de se retrouver lors de la prochaine émission pour la seconde partie de la lecture de ce poème qui s'intitule, je le rappelle, Alexis aux mille collines. À bientôt Chantal.
Au revoir Armand.
C'était votre émission Patrimoine et Spiritualité, une émission qui a été réalisée avec Chantal Bruel.